بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. والله dans ce verset le croyant demande à Allah guide-nous vers le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم, guide-nous vers le droit chemin. Les mufassirin rahimahumullah expliquent ce verset, on décortique d'abord les mots. اهدنا, ça vient du mot hidaya. Al hidaya, c'est la guider. Donc quand on dit اهدنا, on demande à Allah azza wa jal de nous guider. Déjà dans iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hier on avait vu que on affirme, on atteste que nous adorons que Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah dans le culte, on s'adresse que Allah Azza wa Jal, et on atteste également que c'est par la grâce d'Allah, c'est par le tawfiq d'Allah Azza wa Jal qu'on peut faire l'adoration d'Allah. C'est pour ça qu'on dit qu'on retrouve, on cherche refuge auprès d'Allah. On demande l'aide d'Allah pour accomplir le ibadah, pour pouvoir réaliser le Iyyaka na'budu, l'adoration d'Allah, mais d'une manière générale, on demande à Allah l'aide dans tout ce qui concerne notre vie. Et donc, après qu'on s'en remette à Allah pour faire son adoration, le croyant demande à Allah Azza wa Jal la guider, qu'Allah Azza wa Jal guide vers As-Sirat al-Mustaqim. As-Sirat, il faut savoir qu'il y a une lecture de Sirat et il y a une autre lecture avec un signe Sirat. Sirat qui veut dire At-Tariq, qui veut dire le chemin. Et on va expliquer après. Et Al-Mustaqim, les mufassirin disent Al-Mustaqim, ay alladhi la i'wijaj fi. As-Sirat al-Mustaqim, c'est un chemin qui est droit, qui est rectiligne. Contrairement à un chemin qui serait tortueux, où il y aurait des bosses, il y aurait des dénivelés, où ça va à droite, ça va à gauche, ça passe par différents endroits pour arriver vers un objectif. Et on a tous compris, on verra, enfin, on a tous compris. Quand on parle de Sirat al-Mustaqim, si on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider, de nous garder dans la constance dans l'islam, dans l'obéissance de ses ordres. Et on verra dans le verset suivant, c'est quoi Sirat al-Mustaqim? Ça va être détaillé par l'autre verset, Sirat al-Ladina an'amta alayhim. Avant de commencer vraiment hein, le sens de Ihdina Sirat al-Mustaqim, on a fait appel à Ibn Kathir rahimahullah, hein, parce que ce verset est d'une telle importance que un tafsir simplifié n'était pas suffisant. Ibn Kathir rahimahullah, il explique dans son tafsir al-Qur'an al-Azim, il dit, voyez la manière que le croyant doit implorer Allah dans toutes les situations. La Surah al-Fatiha nous montre la manière qu'on doit invoquer Allah Azza wa Jal. On n'a pas démarré la salat avec Allahu Akbar, on dit Bismillah Amdul Shaitan, Bismillah Rahman Rahim, Ihdina Sirat al-Mustaqim. On ne demande pas Allah Azza wa Jal directement ce qu'on a besoin. On commence par les louanges, les madh. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alameen, les sifat d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. On demande à Allah, d'abord on va citer les sifat d'Allah Azza wa Jal, on va implorer Allah, et après avoir imploré Allah, après avoir reconnu que Allah c'est notre Seigneur et que nous sommes ses serviteurs, que nos adorations vont uniquement vers Allah et que nous avons besoin d'Allah pour faire son adoration, mais également pour toutes les choses de notre vie, c'est uniquement là quand on a mis, entre guillemets, je pourrais dire, chacun à sa place, hein, l'image n'est pas bonne. Nous, on est en tout cas à notre place de créature et on a compris où est Allah, qui est notre Seigneur, comment il est Rabbul Alamin, Rahman, Rahim, Maliki Yawmiddin, et qu'on a besoin de lui, ne serait-ce pour nous tenir debout devant lui, pour l'invoquer, et qu'on a besoin de lui pour qu'il nous accepte, pour qu'on se prosterne. Si c'est pas lui qui nous donne tawfiq, on n'est pas là en train de faire qiyam, ruku', sujoud, en train de l'invoquer. Quand on a déjà reconnu tout ça, on a fait les louanges d'Allah, là on demande ce qu'on a besoin. C'est là qu'intervient Allah, ihdina. Oh Allah, donne-nous la guider, ihdina sirat al-mustaqim. Et ça nous ramène vers le hadith qu'on avait cité le premier jour, le deuxième jour, quand Allah Azza wa Jal dit la fatiha. La salat est divisée en deux parties. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ça c'est pour moi. C'est-à-dire que le serviteur fait les louanges d'Allah. Ensuite, il y a un verset qui est divisé en deux. Iyyaka na'budu, ça c'est pour Allah. Et Iyyaka nasta'in, ça c'est un doigt qu'Allah accorde au serviteur. Et après, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم jusqu'à la fin. Ça c'est pour le serviteur, c'est ce que le serviteur demande. Ce que Ibn Kathir rahimahullah explique d'une manière magnifique, لقد تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى. Après que, on va dire en français, pourquoi on dit en arabe, après qu'on ait fait les louanges, les éloges d'Allah, nasaba, maintenant il est munasib, maintenant il y a lieu an yu'aqqabu bis-su'al, maintenant il y a lieu que le serviteur demande à Allah Azza wa Jal ce qu'il a besoin, d'où le hadith, kama qala, fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi, la moitié c'est pour moi, la Fatiha, et la moitié c'est pour mon serviteur, wa li 'abdi ma sa'al. Et ça, c'est une bonne nouvelle. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal dit que j'accorde à mon serviteur ce qu'il a demandé. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, quand on va demander les doigts à Allah, اِهْدِنَا الصَّلَاةَ الْمُسْتَقِيمِ, Allah Azza wa Jal dit que quand le serviteur, hein, il y a la partie de la salat qui lui concerne, il me demande et j'accorde donc à mon serviteur مَا سَأَلْ ce qu'il demande. Et Ibn Kathir donc dit وَهَذِهِ أَكْمَلُ أَحْوَالِ السَّائِلِ أَنْ يَمْدَحَ ثُمَّ يَسْأَلَ حَاجَتَهُ لِأَنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ وَأَنْجَحُ لِلْإِجَابَةِ. C'est la meilleure des façons d'obtenir ce qu'on a besoin de la part d'Allah. C'est la meilleure des façons, la meilleure des méthodes de commencer par les louanges d'Allah. Ensuite, on fait notre demande. Et ensuite, dans Ibn Kathir, parce que Ibn Kathir, c'est beaucoup de détails. Mashallah, il cite beaucoup de versets, l'exemple de beaucoup de prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et entre autres, on a retenu de Zannoun, le prophète qui était le plus de la difficulté, c'était qui? Quel était ce prophète qui était vraiment dans une situation terrible, accablante, où il n'y avait aucune autre issue si ce n'est l'aide d'Allah? Zannoun, le prophète Younous. Younous, alayhi salam. Yusuf, alayhi salam, il a connu des étapes de difficulté. Mais si on pourrait dire une situation vraiment fermée, c'est vraiment Younous alayhi salam lorsqu'il était dans le ventre de la baleine. Et là, il a demandé La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin, démarré par les louanges d'Allah, ensuite implorer Allah, ensuite demander Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la manière sunnah de faire dua. Quand quelqu'un a besoin de faire les doigts, regardez comment la Fatiha est présentée. Ensuite, on demande ihdina as-sirat al-mustaqim. Pareil, quand on demande les doigts, on doit d'abord invoquer Allah par ses noms sublimes, par ses attributs, autant qu'on puisse connaître. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Dhal Jalal wal Ikram, Ya Rabbal Alamin, Ya Qawiyu, Ya Matin. Le maximum de qualités d'Allah qu'on peut citer. Après, il y a des formules jami', des formules complètes. Nas'aluka bi asma'ika al-husna, nous t'implorons par tes noms les plus sublimes. Wa sifatika al-ula, et par tes attributs élevés. Nas'aluka bi kulli ismin huwa lak, par tous tes noms qui t'appartiennent. Samaita bihi nafsak, que tu t'es toi-même donné. Wa anzaltahu fi kitabik, ou révélé dans un livre. Ou subhanallah, anzaltahu fi kitab, ou allamtahu hada min khalqik, et puis on demande le doua. Ou alors une autre formule complète. Nas'aluka bismika al أعظم والله نتبلغون par ton nom sublime الذي إذا سئلت به أجبت, le nom par lequel lorsqu'on t'implore, on te demande, tu acceptes. Et là, après avoir fait les louanges d'Allah, le maximum qu'on connaisse, qu'on peut, même si on peut pas les faire en arabe, on les fait en français, on les fait en créole, en chimaoré, en quelle que soit la langue, mais qu'on parle à Allah, on cite, oh Allah, tu es le plus grand. Allez, supposez que quelqu'un ne connaît pas beaucoup de qualités d'Allah, il parle, oh Allah, c'est toi le créateur, c'est toi le maître, c'est toi qui as tout créé, tu m'as donné la vie, oh Allah, tu m'as donné la santé, tu m'as donné toutes ces facilités, tout ça, ça t'appartient. Un jour, tout le monde meurt, retourne vers toi, il n'y a que toi qui restes, tu es l'éternel, nous sommes tous périssables, nous sommes tous faibles, tu es le plus fort. Vous avez compris? C'est pas des termes compliqués, chacun il le fait dans sa langue, mais on doit implorer Allah, implorer. Le seul qu'on a le droit de supplier de la sorte, c'est Allah. Jamais on ne peut pas supplier un être humain comme ça. Devant un être humain, jamais on ne se rabaisse pas comme ça. C'est uniquement devant Allah qu'on se prosterne et que le cœur se prosterne aussi devant lui avec sincérité. On l'implore de toutes les façons possibles. Et aussi longues que seront les prosternations, encore mieux ce sera, encore plus de chances qu'on aura, Inch'Allah, les invocations, le doua qu'on va demander après sera, Inch'Allah, mustajab, sera accepté par Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est déjà, avant qu'on passe aux conclusions, c'est déjà une leçon capitale à retenir. Comment demander doua? Voyez comment la Fatiha a été présenté. Alors, quand on demande à Allah Azza wa Jal, ihdina as-sirat al-mustaqim, si on demande à Allah Alors, on va revenir avec le premier tafsir. Il dit, après que le croyant ait demandé à Allah de l'aide pour qu'il lui donne tawfiq, qu'il accepte pour faire l'ibadah, maintenant il demande un yahdiyahu as-sirat al-mustaqim. Maintenant il va demander à Allah de la guider vers le droit chemin. Et les mufassirin expliquent que quand on parle de guider vers le droit chemin, sirat al-mustaqim, le droit chemin, il y a différents tafsirs. Ibn Kathir, rahimahullah, entre autres, il a donné pas mal de définitions qui sont tout aussi bien les unes que les autres, mais on a retenu des chaînes de narration. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit que قال جبريل محمد صلى الله عليه وسلم l'ange Jibril alayhi salam a dit au prophète sallam قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم, dit ô Muhammad demande la formule guide nous vers le droit chemin, et il dit يقول الهمنا الطريق الهادي, guide nous vers le chemin bien guidé, on pourrait dire وهو دين الله الذي la iwaja fihi, c'est la religion d'Allah de lequel il n'y a aucune tortuosité, où il n'y a aucun manquement, où il n'y a aucun détour, mais c'est un chemin qui est droit. Et ça, c'est à l'image de notre dîn, un dîn qui est clair, un dîn de lequel il n'y a aucune ambiguïté. Dans d'autres tafsir, toujours marfou'an, hein, qu'on rapporte au prophète, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui se trouve d'ailleurs dans le musnad d'Imam Ahmed et Sunan al-Tirmidhi, il dit que le sens de sirat al-mustaqim, le droit chemin, wa huwa hablullah, wa huwa hablullah al-matin, wa huwa dhikr al-hakim, wa huwa sirat al-mustaqim, c'est la corde, hein, j'aime pas trop l'expression, mais c'est la corde d'Allah qui est ferme, qui est solide. Quand dans je sais pas quelle sourate on lit, wa'tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu, wa'tasimu bi hablillah, accrochez-vous à la corde d'Allah. Accrochez-vous tous, jami'a, accrochez-vous tous à la corde d'Allah, wa la tafarraqu, et ne vous dispersez pas, en ce sens ne vous séparez pas. Le hablullah, c'est rester attaché au dîn d'Allah par le biais de ses révélations, c'est-à-dire le Coran et la sunna. Et la sunna, c'est quoi? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tafsir du Coran. C'est ce qui complète et ce qui commente le Coran. Quand le Coran, Allah ta'ala dit, wa ma ataakum ar-rasulu فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, ce que votre prophète, وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ, en ce sens, ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, c'est-à-dire mettez en pratique, et ce qu'il a interdit, ben éloignez-vous-en. Ça veut dire que tous les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est takmila, vont compléter la révélation d'Allah, le Coran. Donc le sirat al-mustaqim, en résumé, c'est le droit chemin. Et quand on parle de droit chemin, c'est le chemin qu'Allah azza wa jal a agréé pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les sahaba et pour tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Et le sirat al-mustaqim, ce qui fait le droit chemin, la description, la construction, la manière que le droit chemin a été façonné, c'est celle qui a été faite par le prophète et les sahaba. On ne peut pas dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait telle action, ça c'était sirat al-mustaqim, mais à une certaine époque, on a besoin d'autres choses, d'autres moyens, d'autres méthodes pour se rapprocher d'Allah. Ça, c'est pas possible, ça. Parce que c'est un dîn qui a été révélé au prophète alayhi salatu wa sallam et qui restera intact et inchangé jusqu'au qiyama. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a protégé notre Coran. Personne ne peut y toucher, personne ne peut en changer le sens. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé en cadeau quelque chose, une science que personne n'a eu avant. Aucune communauté, ni les Yahoud, ni les Nasara, ni personne, aucun prophète, aucun Nabi, aucun Rasoul. C'est quoi cette science? On l'a déjà dit plusieurs fois, Al-Isnad, ça c'est Hajib ça, les chaînes de narration. Dans les autres communautés, il n'y a pas de chaîne de narration. Là, on est capable de dire que ce hadith-là, il a été rapporté par telle personne, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est capable de retrouver les sources, tandis que dans les autres communautés, ils disent qu'un saint a dit, tel a dit, tel a dit, mais sans être capable de dire, est-ce que Isa l'a dit? Est-ce que Moussa l'a dit réellement? Impossible de savoir. Alors que nous sommes capables de ramener toutes les citations du prophète alayhi salatu wassalam avec les chaînes de narration qui coïncident tant par rapport au lieu, parce que on va pas entrer dans les détails, mais quand on parle de sanad, chaîne de narration, il y a le facteur géographique et le facteur temporel. Si les deux cadres, C'est des chaînes de narration qui sont acceptables. Si c'est décalé, un cheikh qui est en Égypte, l'autre qui est de l'autre bout du monde en Russie, et disent qu'ils l'ont rapporté en même temps, on voit qu'il y a des erreurs. Il y a des savants qui ont donné leur vie, comme Imam al-Dhahibi, rahimahullah, et plus récemment, parmi les contemporains, pardon, Cheikh Albani, rahimahullah, ces personnes ont donné leur vie pour l'étude des chaînes de narration, afin que tout ce qu'on utilise comme hadith, ce soit vraiment authentique. Bref, avec tout ça, alhamdulillah, avec tout ce qu'Allah nous a donné, si on les suit à la lettre, en suivant les chaînes de narration, en respectant le Coran, les ordres d'Allah, en mettant en pratique l'islam comme cela a été révélé, Inch'Allah, on se donne les moyens, on se donne les atouts pour rester dans le Sirat al-Mustaqim. Et par opposition à Sirat al-Mustaqim, il y a les autres chemins. Bien sûr, il y aura ceux qui seront cités, hein, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, mais également, quand le croyant il pense être dans le droit chemin, il doit faire extrêmement attention qu'il suit toujours des bases solides, que ses sources soient authentiques, que les savants qu'il va suivre, ce sont des savants fiables, qui ont appris la connaissance religieuse avec des professeurs également de qualité, mais que le discours qui sort de ces savants soit construit, soit basé sur la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cela se vérifie, on peut écouter les discours de n'importe quel savant, à n'importe quelle époque, dans tous les pays du monde, ce sera le même contenu. Et c'est ça la grande lumière qu'il y a dans notre dîn. Qu'on peut écouter un cheikh qui est à Bukhara, un cheikh qui est en Turquie, un cheikh qui est en Indonésie, qui est aux pays arabes, aux Émirats, en Arabie, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, s'ils suivent les sources authentiques, ce sera exactement le même discours. Après, on ne parle pas des divergences d'opinion dans le fiqh. Ça, c'est vraiment des choses qui sont minimes. Et ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est le manhaj, la manière de suivre la religion. Et avec ça, on est dans As-Sirat al-Mustaqim. Et pour aller un petit peu plus loin dans d'autres commentaires, parce que ça, c'est un terme extrêmement important qui nous intéresse. Il y a d'autres sahaba par la suite, hein, qui ont donné leur opinion. On a Ibn Abi Hatim et Ibn Jarir qui rapportent le hadith d'Abu Nadr, Hashim ibn al-Qasim, rapporté, on a toute la chaîne de narration, on ne va pas tous les citer. An Abil Aliya, ihdina sirat al-mustaqim, قال, le sirat al-mustaqim, c'est la voie que nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons après lui. Et mais ça, tout ça, ça se rejoint. Tout ça, ça se rejoint. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alaykum mi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin Abi Bakr, Umar, Uthman, Ali. » C'est ce qu'on cite dans les sermons, les khutbas du Jum'a. Le prophète alayhi salatu wa sallam a demandé aux croyants de suivre sa sunna ainsi que la sunna des califes bien guidés, ceux qui sont venus après lui, et ce sont les quatre califes, parce que tout ce qu'il faisait, ça émanait de la sunna du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait d'autres choses à dire, mais si on rentre trop dans les détails, on ne pourra pas compléter ce qu'on voulait faire ce soir, et demain on doit compléter Al-Fatiha. Il y a une parole qui est magnifique, moi c'est vraiment ce genre de parole qui me plaît, hein, c'est rapporté par Al-A'mash avec d'autres chaînes de narration. En trop cité par Ibn Kathir al-Tabrani, il dit que As-Sirat al-Mustaqim alladhi tarakna alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est beau. Il a dit As-Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin que nous a montré, que nous a laissé le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire que quand le prophète alayhi salatu wa sallam a quitté ce monde, ce qui nous a montré comme din, c'est ça le As-Sirat al-Mustaqim. C'est-à-dire prenez cette façon de pratiquer la religion sans en rajouter quoi que ce soit, ni en retirer. Ce qui nous prouve bien que les rajouts, ce qu'on appelle les bid'ahs, les innovations, ce sont des choses qui nous rapprocheront jamais du haqq. Ce ne sont pas des choses qui vont nous rapprocher du sirat al-mustaqim. Il y a des fois où on se dit qu'on va faire telle chose pour avoir encore plus d'amour d'Allah, pour avoir encore plus d'amour du prophète de notre vie. Mais si le prophète ne l'a pas mis en pratique, si les sahaba ne l'ont pas fait, si les tabi'in, qu'on appelle ashab al-qurun al-mufaddala, les personnes qui faisaient partie des meilleures époques, quand le prophète dit alaykum, subhanallah, quel est le hadith encore? La ilaha illallah, qu'on se souvienne de ça. Khayrul qurun qarni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Après encore? Non. La meilleure des époques, c'est mon époque. Ensuite, l'époque qui vient après. Ensuite, l'époque qui vient après. Les mufassirines expliquent, les muhadithines, que mon époque, c'est l'époque du Prophète, avec les sahaba qui étaient vivants à son époque. Ensuite, ceux qui sont venus après eux, ce sont les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont vu les sahaba, qui ont vécu à leur époque et avec iman. Et ensuite, ceux qui viennent encore après eux, ce sont les atba'at tabi'in, ceux qui ont vu les tabi'in. C'est-à-dire, c'était déjà un sharaf, un honneur énorme de voir quelqu'un qui a vécu avec Abdullah ibn Mas'ud, qui a vécu avec Abdullah ibn Umar, même si on voit les plus petits, na'oudhou billah, les plus jeunes sahaba, Abdullah ibn Abbas, celui qui a fréquenté Abdullah ibn Abbas. Imaginez que vous pouvez passer 5 minutes avec cet homme-là, ajib, le ilm qu'on peut avoir, la lumière qu'on peut obtenir. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit que ce sont là les meilleurs qurunes, les meilleurs des siècles, les meilleurs des générations. Donc pour notre pratique de la religion, et ça c'est valable jusqu'à la fin du monde, on doit voir comment eux ils ont pratiqué. Et on doit avoir une pratique identique à eux, sans rajouter quoi que ce soit, ni cautionner nos rajouts, parce que Foulan a dit, parce que telle personne a dit, parce que dans mon pays, mon dada, chez nous les Indiens, on dit nana, dada, da, etc. Les ancêtres, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais s'ils ont fait, ils ont fait. Mais toi, regarde comment le prophète, alayhi salatu wassalam, a légué l'islam, a légué la religion aux sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, et eux, ils les ont légués aux générations après. C'est ça le sirat al-mustaqim. Maintenant, si très souvent on se dit que moi je suis, c'est-à-dire le verbe suivre, la jurisprudence, le fiqh, selon l'école de Abu Hanifa, tout à fait louable. Je suis le fiqh selon l'école de Shafi'i, tout à fait louable. Selon le fiqh de Imam Malik, selon le fiqh de Imam Ahmed, qui étaient tous de grands savants. Il ne faut jamais qu'une personne se dise que c'était des imbéciles, na'oudou billah, ils ont fait des erreurs, il ne faut pas... Oui, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait? Après le Prophète, à part lui, est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait? Tout le monde fait des erreurs. C'était des mujtahids, c'était des gens qui, à leur époque, devaient faire des recherches pour trouver les masa'il et tout. Donc, quelqu'un, il se dit que moi, je suis l'école, telle école, telle école, il n'y a aucun problème. Maintenant, à toi d'analyser, ya akhi. Tu es Hanafi, ok. Tu es Shafi'i, mais regarde comment ton imam y pratiquait le dîn. Si lui ne faisait pas telle action en plus, ben tu ne le suis pas alors. Tu le suis dans le fiqh et dans sa manière, son manhaj, la manière de pratiquer l'islam, tu vas faire autre chose. C'est-à-dire qu'il faut une certaine cohérence. Et l'idéal, mes chers frères, c'est de revenir aux sources. Si les musulmans du monde entier revenaient aux sources, comment le Coran a été révélé, comment la sunna a été pratiquée, comment l'islam était pratiqué par ces trois meilleures générations qui étaient les siècles lumière pour nous, assurément nous serions tous dans le droit chemin. Hada. Donc ça, mes chers frères, c'est un des du'as les plus importants. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et il y a... Enfin, on est tenté à chaque fois de... On va s'arrêter parce qu'il y a tellement de magnifiques citations de grands savants de l'islam qui donnent encore plus de détails sur sirat al-mustaqim. Mais on a dit que ce n'est pas un tafsir approfondi. C'est juste pour avoir une ébauche, hein, une compréhension globale afin que quand on lit la salat... Alors qu'est-ce qu'on doit ressentir quand on lit la salat? On doit, quand on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, on doit vraiment ressentir dans notre cœur qu'on est comme un mendiant devant Allah. Comme quelqu'un qui implore, qui supplie, qui se prosterne, qui lève les mains. Oh Allah, la guider, oh Allah, guide-nous. Et pourquoi il est tellement important de demander la guider? Parce que si Allah nous accorde la hidayah, la guider, qui nous empêche d'accéder au paradis? Si Allah t'a accepté, si Allah t'a choisi pour être parmi les élus, parmi les gens qu'il aime, parmi les gens qu'il a choisi pour être dans le droit chemin, qui c'est qui t'éloigne? Si Allah te considère comme un proche awliya, wali min awliya Allah, min awliya illah, est-ce que tu crains encore l'enfer? Non, tu as la garantie que Allah Azza wa Jal, maintenant, s'il t'aime, il va te mettre le jour de Qiyamah dans la meilleure des situations et dans le meilleur des endroits, Darul Qarar, dans le Jannah, et Inch'Allah, dans le Firdaus. Donc, c'est pour ça que quand on demande Ihdina as-sirat al-mustaqim, on doit le faire avec cœur. Ça doit être la chose qui nous tient le plus à cœur. Quand on demande Ihdina as-sirata al-mustaqim, ça doit être plus important que oh Allah, accorde-moi une épouse vertueuse, oh Allah, accorde-moi un travail, oh Allah, donne-moi mon diplôme, oh Allah, accorde-moi des enfants, donne-moi la santé. Tout ça, c'est des doigts importants. Tout ça, c'est des doigts importants. Tout ça, ça fait partie de Rabbana Atina, fi dunya hasana. tout ça, ça concerne le dunya. Mais quand on dit Ihdina Sirat al-Mustaqim, ça englobe le dunya hasana et ça englobe, il y a d'autres qawls qui disent ça, et ça englobe également, et bien sûr, wa fil akhirati hasana. On demande la guider dans ce dunya et la guider l'acceptation d'Allah, qui dit guider dans le dunya est synonyme, inshaAllah, d'acceptation d'Allah Azza wa Jal le jour du Qiyamah. Hada. Et puis il y a une magnifique question que Ibn Kathir rahimahullah, il a posée. C'est magnifique. Fa in qila kayfa yas'alu al-mu'minu al-hidayah fi kulli waqtin min salatin wa ghayriha wa huwa muttasafun bidhalik. Regarde, t'as compris? Kayfa, non, ça c'est nos élèves quoi d'arabe, ça arrive. Mukatu. Kayfa yas'alu al-mu'minu al-hidayah? Comment est-ce que le croyant il demande la guider de la avec Allah Azza wa Jal fi kulli waqt, à chaque moment, min salatin wa ghayriha, dans ses prières ou en dehors des prières, wa huwa muttasafun bidhalik, alors qu'il est lui-même, et ça fait partie de ses sifats, de ses qualités, de ses spécificités, que le musulman par excellence c'est celui qui est guidé par Allah, oui ou non? Celui qui adore Allah, qui suit la sunna, ça dit à nous, chaque personne présent, nous sommes des gens, alhamdulillah, on était guidés par Allah. On n'est pas dans d'autres communautés, on était donc guidés, dans d'autres religions, je veux dire, on était guidés, on a eu la hidayah. Donc Ibn Kathir dit, ben comment, pourquoi? C'est une question pour qu'on essaie de réfléchir. Comment ça se fait que le croyant, tout le temps, dans la Fatiha, il demande la guider, alors qu'il est déjà dans le Sirat al-Mustaqim, alors qu'il est déjà guidé, il est déjà dans l'islam? Il dit, ça c'est une parole magnifique également. Il dit que à chaque moment, فَإِنَّ الْعَبْدَ مُفْتَقِرٌ فِي كُلِّ سَاعَةٍ, à chaque, tout le temps, permanence, le serviteur a besoin, وَفِي كُلِّ حَالَةٍ, dans chaque situation, il a besoin d'Allah, فِي تَثْبِيتِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ, afin qu'Allah lui accorde la thabat, la fermeté dans la hidayah, dans la guidée, وَرُسُوخِهِ فِيهَا وَتَبَصُّرِهِ وَازْدِيَادِهِ مِنْهَا وَاسْتِمْرَارِهِ عَلَيْهَا, pour que, c'est-à-dire qu'on demande à Allah de nous garder d'une manière générale l'istiqama, rester ferme dans le droit chemin, wastimrarihi alayha, de rester tout le temps dans le droit chemin jusqu'à la mort. Fa innal abda la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharran illa ma sha Allah, parce que le serviteur lui-même il ne peut rien de bien comme de mal si ce n'est par la grâce d'Allah. Et il enchaîne avec un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué qu'il y a des gens qui durant toute leur vie, on avait expliqué une fois, ça c'est des hadiths qui font peur, des gens qui durant toute leur vie accomplissent de bonnes œuvres, des actions des gens du paradis, mais avant de mourir Allah les détourne du droit chemin pour une raison qu'Allah seul le sait. Avant de mourir, la personne fait une action des gens du Jahannam et son nom est inscrit sur la porte du Jahannam. Nasalullah salamata wal'afiyah. Alors que toute sa vie, c'était quelqu'un, on va dire, comme vous et moi, ou alors mieux que vous et moi. Quelqu'un qui était dans le droit chemin, mais avant de mourir, il a dévié du droit chemin. Et ça, le hadith dit qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est pour ça qu'en permanence, on doit demander, ihdina as-sirat al-mustaqim, toujours demander. D'où le doua, il y a parmi les Rabbana. Les Rabbana, on doit tous mémoriser les Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Dans ce doua également, on demande à Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, de ne pas dévier nos cœurs après qu'il nous ait guidés. Ça, c'est des doua importants. Il y en a un doua aussi. Allah Akbar, le doigt m'échappe là. Un doigt qui demande au Allah de nous guider, qui va dans le même sens. Donc il y a plusieurs doigts masnoun qui vont dans le même sens, qui a pour but de demander à Allah la constance jusqu'à la dernière seconde de notre vie, jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne reprendre l'âme, qu'on puisse quitter ce monde avec la shahada, avec la ilaha illallah. Dans certaines sources, je crois qu'Imam Qurtubi, mais dans le livre Tadhkira de Qurtubi, il y a parfois des petites des hadiths qui sont pas trop sahih, aussi authentiques. Il dit, il explique, faut que je vérifie l'authenticité du récit, il explique les dernières tentations de shaitan aux mourants. Quand la personne est en train de mourir, Shaitan il vient avec son dernier waswasa, ses dernières insufflations, il fait tout pour que la personne quitte l'islam. Jusqu'au dernier moment de la rarara, de l'agonie, il fait en sorte que la personne dévie du droit chemin. C'est pour ça qu'on demande à Allah al-thabat jusqu'à la mort. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam avait dit sahaba, qu'il avait quelqu'un qui était enterré, demandez à Allah al-thabat que la personne reste ferme parce qu'il est en train de répondre aux questions des anges dans la tombe. Il y a un verset également qui dit ya ayyuhalladhina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله jusqu'à la fin du verset يا أيها الذين آمنوا. Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. Oh, vous qui avez la foi. آمنوا. Comment ça? Oh, vous qui avez la foi. J'ai pas la traduction là, mais آمنوا, portez iman, portez la foi, billahi wa rasulihi, en Allah et en son prophète, jusqu'à la fin du verset. Ibn Kathir dit, faqad amara alladhina amanu bil iman. Allah ordonne à ceux qui ont la foi d'avoir la foi. Il a dit que walaysa fi dhalika tahsilul hasil. Ça, c'est des termes un peu techniques. C'est pas qu'Allah demande à la personne d'obtenir ce qu'il a déjà obtenu. Li'anna al-murad, l'objectif c'est al-thabat, al-istimrar. Al-mudawama ala al-a'mal al-mu'ina ala dhalik. De demander à Allah fermeté, constance, de donner tawfiq, de faire les bonnes actions qui permettent de rester dans le droit chemin jusqu'à la mort. Et on va compléter avec ce magnifique verset wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, selon le commentaire de la majorité des mufassirin, c'est-à-dire demander, faites l'adoration d'Allah jusqu'à ce que la mort arrive. Ça, c'est pour ça qu'on dit la mort, c'est la délivrance du croyant. C'est-à-dire, celui qui est mort avec iman, objectif est atteint. Il a pu rester ferme dans le droit chemin jusqu'à la mort. Vous savez, on ne va pas faire de relations directes comme ça, on n'est pas en droit de le faire, mais on n'a pas le niveau de ilm pour le faire. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit entre autres que la yadkhulul jannata aq, hadith qu'on dit tout le temps, celui qui manque de respect, celui qui n'est pas proche de ses parents, n'accède pas au paradis. La yadkhulul jannata aq, aq, c'est-à-dire aqun li walidayhi, les muhadithines expliquent, je ne sais pas dans Tirmidhi ou je ne sais pas dans quel sunan, dans un des sunan, les muhadithines, le sharih, il explique que la personne, comment ça se fait qu'il est et qu'il n'entre pas au Jannah, dire que la personne aura sous-ul khatima. Comme on l'avait expliqué Husnul Khatima il y a deux jours à cette dame qui est morte à Mecca, sous-ul khatima, c'est quelqu'un qui meurt dans les pires des conditions, une mauvaise mort, dans l'erreur, dans les péchés, dans les tourments, dans la perdition, qu'Allah nous protège. Ils disent qu'il y a des risques que la personne, cette personne qui, durant le vivant de ses parents, a été un mauvais enfant. Quand on dit enfant, c'est petit, grand, même 45 ans, on n'a encore enfant. Il n'a pas bien agi envers ses parents, il y a de fortes craintes que la personne, même si c'était dans le droit chemin, la personne risque de mourir de la pire des façons, parce que le prophète ça me dit que celui qui a désobéi à ses parents, il ne peut pas accéder au paradis qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Donc, dans ce sens-là, c'est un doua qu'on demande à chaque fatiha, donc à chaque raka'at, sachant que la fatiha est impérative dans chaque raka'at. Donc, chaque salat qu'on fait, chaque unité de prière sera composée de la fatiha et sera donc composée de ce doua qu'on demande à Allah régulièrement. Oh Allah, ihdina al-sirat al-mustaqim. Hada. On voulait faire salat al-ladhina an'amta alayhim aussi, mais ça va être un peu long, ça on va garder pour demain, et on va coupler les deux salat al-ladhina an'amta alayhim avec ghayr al-maghdoubi alayhim waladdallin, inshallah demain soir avec ça, par la grâce d'Allah, on aura complété cette présentation de la surat al-fatiha. Qu'Allah azza wa jal nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah azza wa jal fasse entrer la lumière et la science profonde al-fatiha de nos cœurs, que lorsqu'on accomplit la salat, on a la dévotion, la concentration, et que la réalité de ces sept versets pénètre nos cœurs. Wa ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.